Seigneur Dieu, on veut vraiment te remercier pour cette opportunité d'être réunis ensemble et de pouvoir vraiment aller dans ta parole. Aide-moi à être une bonne interprète et une bonne serviteuse dans ma transmission de ton message. Et aide-nous, Seigneur, à s'approprier personnellement ce qui nous appartient de se transformer pour être davantage à ton image. Et merci pour cette parole que tu nous donnes et qu'on peut si librement lire tous les jours. En ton nom précieux qu'on veut te prier. Amen.
Amen.
Alors, on va commencer avec la deuxième discipline. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, on travaille entre autres avec le livre de Mme Hughes sur « Femme de Dieu, exerce-toi la piété ». Donc, on passe au travers les différentes disciplines chaque semaine. Puis on va voir des exemples de femmes qui ont été des bons modèles ou des mauvais exemples de cette discipline-là là, pour approfondir. Donc, la semaine passée, on a vu la discipline de l'Évangile. Puis cette semaine, on a la belle discipline de la soumission. Hein? Fait que je voulais commencer avec une première anecdote. En fait, à mon mariage, il y a déjà 11 ans, on voulait pas avoir une prédication conventionnelle. On a demandé aux gens qui nous coachaient, qui étaient proches de nous, de faire un mot de témoignage à notre égard. Donc, Luigi a choisi un homme et moi une femme, puis il devait faire un mot de témoignage. On s'est dit, ils nous ont connus pendant toute notre fréquentation. Ils vont parler de nos fréquentations, de nous. Mais ils ont décidé ensemble de faire ça autrement. Et de vraiment parler de la soumission, là, étant donné que j'avais un bon caractère, là, de pouvoir me rappeler l'importance de la soumission dans le mariage, puis de rappeler à Luigi l'importance qu'il y avait d'être un leader pour moi, puis de pouvoir pas me cadrer, mais tu sais, m'amener là, un peu plus loin. Fait que ça a été un bon matin, mais je vous dirais que 10 ans plus tard, j'en entends encore parler de la fameuse prédication parce que le mot soumission a dû être nommé 45 fois. Alors, il y avait vraiment dans l'assistance des gens qui n'étaient pas sauvés, que c'est la première fois qu'ils venaient à l'église là, de mon université, puis eux, là, ça les a ébranlés, là, vraiment. Là, ils étaient très affectés, puis même encore qu'on en parle, moi, je trouve ça bien fait. Fascinant. Mais ça montre que le mot soumission, hein, on l'entend, puis on veut bien, mais il y a un petit oomph, hein, quand on l'entend, il y a comme quelque chose de négatif. Puis on se dit, ça part là, quand il y avait le féminisme, puis que les femmes ont voulu avoir plus de droits, puis, qui était légitime dans un certain sens, hein, il y avait de l'abus. Mais quand ça s'est immiscé dans le mouvement évangélique, on a vu qu'il y avait comme vraiment une rébellion aussi qui se faisait dans le cœur des femmes pour pouvoir comme diluer ça. Puis peut-être qu'il y avait un meilleur mot que soumission qui était approprié. Puis peut-être qu'il fallait parler plus de respect que de soumission. Puis essayer d'alléger ce mot-là qui a de l'air si rough là, quand on l'entend. C'est comme si notre identité était plus ferme puis qu'on avait une moindre importance là, quand on parlait de soumission. Fait que ça l'a quand même rentré dans les églises, puis malheureusement, ça l'a comme nuit à notre identité en tant que femme. Puis c'est dur des fois de savoir où notre leadership est versus notre soumission. Puis ça nous amène d'être confondu un peu dans l'identité qu'on est. Et pourtant, ça en fait partie. Donc, on va explorer ça un petit peu aujourd'hui. L'autre aspect qui est important, c'est que dans le fond, tout le monde est appelé à une soumission. Hommes, femmes, enfants, employés, employeurs, hein, tous dans les rôles qu'on joue, on a un moment ou l'autre qu'on doit se soumettre. Hein. Se soumettre, c'est vraiment d'aller de... Voyons, je n'ai pas la définition du Larousse, là, je l'ai plus loin, là, mais la soumission, c'est de se soumettre à la volonté de quelqu'un. Hein. Mais ça ne dit pas que ça doit être rebelle, que ça doit être contre notre gré. Vraiment, on est appelé à se soumettre de façon avec joie, avec allégresse, volontairement. Puis on va voir un petit peu au fur et à mesure qu'est-ce que Dieu entend par le mot soumission. Puis Dieu laisse souvent entendre dans sa parole que de se soumettre, ça nous apporte une vie de bénédiction. Hein? Fait que on va voir ça aussi un petit peu. Fait que dans Philippiens 2, 8 et 11, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Fait que quand on lit ça, on se dit « Jésus, il est Seigneur », c'est clair, on a cet aspect-là. Mais si on regarde un petit peu plus haut, en haut du verset, Jésus s'est humilié hein, en venant sur la croix. Puis on se rend compte que Jésus, c'est pas un roi comme les autres hein, qui veut être promu, qui a certains privilèges, certains accords. Quand il est venu sur la terre, il avait vraiment cette humilité-là de vivre une vie terrestre presque cachée au début, hein, les premières années. Il n'utilisait pas son pouvoir, sa connotation, sa divinité à tort et à travers. Puis, il y a bien des exemples dans la Bible où on voit qu'en lavant les pieds des disciples, il usait vraiment d'une humilité qu'on se dit, ben voyons, là, me semble que c'est humiliant, me semble que c'était les serviteurs qui faisaient ça. Mais lui, Jésus, il ne vivait pas de crise d'identité, là. Il ne disait pas, Ah, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Jésus, il nous donnait un exemple de serviteur. Puis il agissait vraiment à contre-courant. On l'a vu un peu la semaine passée, hein, quand il a parlé à la femme samaritaine. Les conventions, les formes, les façons de faire. Jésus lui regardait au fond des choses. Puis il était capable d'aller vraiment démontrer que ce qu'il voulait, c'est nous montrer un geste d'humilité, puis de montrer qu'on est tous appelés à être serviteurs, puis lui le premier. Puis pourtant, Jésus, c'est un être parfait, puis il n'avait pas besoin de le prouver. Il aurait juste pu le dire, mais il le montrait en exemple puis en acte. John Wesley, c'est un prédicateur là, qui est décédé là, que, avec son frère, qui ont eu une grande importance dans le siècle passé. Puis il y a une prière que je trouvais très encourageante. Il dit « Prenez l'entière possession de mon cœur, élevez votre trône et commandez du ciel là où vous siégez. Vous m'avez créé à votre image, laissez-moi vivre pour vous. Vous m'avez créé pour vous, laissez-moi toujours agir pour votre gloire. Vous m'avez sauvé, laissez-moi vous rendre ce qui vous appartient et que mon esprit soit toujours fidèle. » Moi, j'aimais cette dualité-là. Hein? Il nous rappelle Dieu nous a créés pour sa gloire, il nous a créés pour qu'on puisse travailler pour lui. Puis en contrepartie, nous, on devrait vouloir ce que lui veut. Hein? Il nous a créés pour ça. C'est comme notre rôle maintenant d'y arriver. Oh, merci. C'est les faits pour la première leçon. Donc, une partie, là, dans le premier point, on a vu vraiment que l'amour de Dieu était très important là-dedans parce que le rôle qu'on joue est beaucoup plus facile quand on est dans un moment où on a le goût. Hein? Quand ça va bien avec notre mari, avec nos enfants, on a beaucoup plus le goût là, de développer nos langages d'amour, de leur donner des câlins, des cadeaux, de leur dire qu'on est beau. Mais quand c'est plus difficile, c'est là un peu hein, que notre amour est plus dur à traduire en gestes, en paroles, puis en pensée aussi. Puis, on voit que la loi de Dieu, c'est une des choses qui est la plus difficile. Dans l'Ancien Testament, on a le cycle du péché d'Israël. Je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, là, quand on en a parlé, je pense, dans l'Exode avec Yannick. En fait, là, il y a une théorie qui existe du cycle du péché d'Israël où que le peuple péchait, Dieu envoyait une plaie ou un prophète ou quelque chose, le peuple se repentait, puis après ça, il idolâtrait. Je ne dois pas le dire, hein, Karine. Et il idolâtrait de nouveau un nouveau roi où il était. Fait que ça faisait toujours un cercle. Dans l'Ancien Testament, là, c'est ça qu'on voit. C'est pour ça qu'il y a tant de prophètes qui deviennent toujours ramener le peuple dans la bonne voie. On voit que naturellement, le péché est là. Hein? On est de nature pécheur. On n'a pas de questions à se poser. Mon garçon, Elzo, lui, il n'était pas convaincu. Là. Le mois passé, il dit ben non. Il dit les bébés, ils pêchent pas, là. Fait que là, j'ai dit, donne un jouet à Julia, ta petite nièce, puis dis-lui, jette-le pas par terre. Hein, on va avoir un regard de confrontation. Puis elle fait ça comme ça. Tu sais, elle laisse tomber. Fait que tu sais, le péché est à moindre niveau, là, on pourrait dire. Là. Ils n'ont pas toute la pensée puis la connotation. Mais on est né pécheur. Fait que c'est notre nature qui est facile. Hein? Fait que pour certains, il y a des péchés qui sont plus faciles que d'autres. Puis on a chacun notre type de péché qu'on trouve qu'on glisse plus facilement. Hein? Il y en a que c'est vraiment par orgueil, puis par le regard des autres. Puis ça devient qu'on a une bonne personnalité, on fait des bons gestes, mais en pensée, puis nos motifs sont pas là. Versus d'autres là, qui retombent plus facilement dans leurs vices. Là, je donne des gros vices, mais l'alcoolisme, la médisance, le mensonge, les cachotteries. Fait qu'on a tous des péchés qu'on glisse plus facilement que d'autres. C'est très naturel pour nous. Donc, cet esprit-là là, de vouloir combattre l'autorité, là, ça fait partie d'un péché que tout le monde porte. Il y en a que c'est plus à niveau, puis il y en a que c'est moins. Fait que vous le voyez dans votre relation avec votre travail, avec votre conjoint, comment quand il y a une situation qui arrive où vous avez l'impression qu'il nous demande quelque chose à faire, puis « Ouh, OK, je vais le faire là parce que je l'aime. » Naturellement, on a comme... Ça demande un petit effort. On va le faire, puis c'est beau, mais des fois, on sent que ça vient nous atteindre dans notre identité. Et pourtant, on voit qu'il y a plein de structures, même terrestres, qui utilisent la hiérarchie pour avoir une meilleure façon de fonctionner. On pense à l'armée, on pense à certaines compagnies. Là. Bon, peut-être pas toutes les compagnies, là, ça pourrait être discutable, mais dans l'armée, il y a une hiérarchie, pas parce que l'un est plus faible que l'autre, mais que chacun a son rôle et ses capacités à jouer. Donc, la soumission s'applique à tout le monde. Dans Jean 8, 28, 29, Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Là, c'est un verset là, qu'on pourrait pousser en analyse, mais il y a deux choses que je trouve qui ressortent facilement. Premièrement, c'est que même dans la Trinité, même, il y a une soumission. Hein, ce que le Père m'a demandé, l'Esprit, le Fils, il n'y a pas une question là, de qui est plus fort que l'un. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne pourrait me dire « Dieu est plus fort que l'Esprit, qui est plus fort que Jésus. » C'est un tout, c'est un ensemble. Puis dans le verset, Jésus lui-même, il dit « Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Il y a quand même des hiérarchies, des sortes de niveaux qui sont déjà transmis. Puis l'autre chose aussi, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, Jésus, c'est un être parfait. Puis même dans sa perfection, il demande par la prière de l'aide à Dieu pour pouvoir lui-même faire ce qu'il a à faire. D'autant plus, nous, pécheurs, devons-nous pas prier pour demander à Dieu de nous aider quand la personne parfaite de Jésus se réconfortait et demandait de l'aide par la prière? Moi, ça me montre que quand je me sens bien forte là, par mes propres moyens, c'est vrai que je prie moins. Tu sais, on est au moins moins. Puis c'est quand je suis vraiment là, au fond du baril, là, je le fais. Et pourtant, ça devrait être continuel pour qu'on puisse vraiment développer ça. Pas par faiblesse ou... Bien, un peu peut-être. On est tous faibles. Là. Mais pas pour dire qu'on est un être faible puis qu'on peut pas rien faire puis que ça vient nuire à nous. Mais vraiment parce que notre identité, c'est d'être un enfant de Dieu. Fait que si on est un enfant de Dieu, notre rôle, c'est demander de l'aide à notre père, à notre papa. Donc, c'est vraiment de juste bien comprendre notre rôle, notre responsabilité, au lieu d'avoir cet esprit-là. Là, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais on a quand même un esprit où des fois, c'est comme plus dur, où ça nous braque, où on est vraiment dans un air où on veut développer nos capacités au maximum. Puis Dieu ne dit pas « refoulez-vous, puis soyez tout ». Il nous demande juste de jouer les rôles que lui a déterminés pour nous. Donc, le dernier point, là, c'est vraiment que notre instinct naturel de pécheur nous dit souvent que la soumission, c'est pas ce qui est bon. Là. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, à la radio, là, j'ai souvent « c'est pas grave, hein, travailler pour vous ». Puis, dans la thérapie, là, mes patients viennent me voir. Puis là, maintenant, j'ai décidé d'abandonner parce qu'il faut que je me concentre sur moi-même, sur mes forces, mon potentiel. Mais c'est pas naturel. C'est naturel pour la nature pécheur. Mais Dieu, il veut qu'on travaille ensemble, qu'on s'humilie les uns envers les autres, qu'on soit redevable à lui, puis qu'on soit dépendant de lui. Donc, vraiment, là, ce que le monde nous laisse entendre, puis ce que Dieu nous laisse entendre, c'est très paradoxal. Donc, ça s'applique dans toute notre vie. Hein? On parle pas juste au niveau spirituel, au niveau de tout ça, mais vraiment dans nos actions, nos paroles, puis nos pensées. Puis, Mme Hughes, elle parle pas beaucoup de la relation homme-femme. Hein? Vous avez vu, on n'a pas mis le verset « Femme, sois soumise à ton mari ». Moi, je voulais quand même faire un aparté pour redire un peu ce que je viens de dire, du fait que si on focus sur travailler sur notre identité, sur notre rôle à jouer, ça met tout en perspective les autres versets qu'on lit, qu'on sent qui sont accusateurs envers nous. Parce que si on braque à cause du mot soumission, qu'on est inconfortable, mais on ne travaille pas sur la bonne chose. Nous, il faut travailler à être des enfants de Dieu, à s'améliorer, à vouloir être transformés, être régénérés. Puis hier, on était à une formation d'école du dimanche, puis je trouvais que le mot régénérer était très pertinent là, de dire de se transformer, puis de constamment vouloir être plus à l'image de Dieu, puis délaisser notre nature pécheresse. Fait que le chapitre était vraiment là pour dire que essayons de réapprivoiser le mot soumission pour être capable de focusser sur autre chose que son côté négatif, mais pour se dire qu'on a un rôle à jouer, que Dieu nous a donné des capacités, puis il faut les utiliser dans la structure qu'il nous a permis. Donc là, j'ai deux modèles à vous parler pour pouvoir regarder un petit peu comment ces femmes-là ont mis ça en pratique. Moi, ça fait 20 ans que je fais l'école du dimanche. Hein? Fait que là, vous allez voir, le reste en découle un petit peu. Je trouvais que de parler juste de Jézabel, quand on ne sait pas si tout le monde connaît tout bien son histoire, mais moi, fallait que je réapprivoise certains aspects. Alors, je vous ai mis en petit cartoon l'histoire là, pour qu'on puisse la raconter un petit peu. Là, je ne vous l'ai pas fait imprimer. Là. Ça donnait beaucoup trop de slides, puis c'était vraiment très petit. Mais c'est juste pour qu'on puisse que ça soit animé pendant que je vous raconte l'histoire. Donc, Jézabel a deux histoires bien importantes. Il y en a une qu'on va passer un petit peu plus rapidement. C'est celle avec le prophète Baal. Dans le fond, Jézabel est la femme d'Akam, hein, un des rois les plus méchants qu'il y a eu en Israël. Si on veut situer dans le temps, là, David, Salomon, Akab vient après Salomon. En fait, après Salomon, le peuple d'Israël s'est divisé en deux. Le nord, Israël, 10 tribus sur 12. Le sud, Judée, dans la Judée, avec Jérusalem, qui a 2 tribus sur 12. Puis Akab est dans le royaume du Nord. Donc, il décide, lui, de marier une femme étrangère, Jézabel, qui a comme principal dieu d'adoration Baal, qui est la fille d'un roi païen très, très riche et puissant, très cruel aussi. Donc, Jézabel est une femme qui était pas, qui n'aurait pas dû être mariée à Akab si Akab avait voulu suivre les volontés de Dieu. Il aurait pris une femme israélite et non pas une femme étrangère. Donc, dans la Bible, là, c'est dit que c'est vraiment un des rois les plus cruels de son époque. Il faisait des sacrifices de bébés pour plaire à Baal. Il tuait des prophètes de Dieu. Là, il y avait vraiment, là, c'était pas un bon moment. Puis, ils ont même construit des temples pour Baal. Ce qui est important de se souvenir, c'est que Baal, c'est le dieu de la moisson, de la fertilité. Donc, hein, c'est supposé lui qui amène plus de récoltes puis qu'on remercie quand ça allait bien. Mais Dieu avait mis une sécheresse, hein, par confrontation de tout ça, pendant 3 ans et demi. Donc, il y avait une grande famine, une grande sécheresse. Les animaux mouraient, les gens mouraient de famine aussi. Alors, Dieu demande à Élie, le prophète du temps, d'aller voir Akab pour une repentance. On se souvient du cycle du péché, hein? Le peuple est en rébellion, il s'est allié un peu avec le... Tu sais, quand le roi était méchant et qu'il y avait un autre dieu, automatiquement, le peuple avait aussi un autre dieu, hein? Il y avait quand même... Alors, le peuple n'était pas nécessairement fidèle à Dieu. Donc, Dieu demande à Élie d'aller voir Akab pour pouvoir lui faire dire d'arrêter d'adorer les faux prophètes et de renvoyer la pluie. Hein? 3 ans et demi, c'est très long. Donc, Jézabel, Akab, hein, ils ne veulent rien savoir, même ils font tuer plus de prophètes. Ça ne fonctionne pas. Donc, on voit là, que Élie va confronter Akab et lui demander de prouver que son dieu Baal est plus fort que Dieu. Donc, il va envoyer 850 prophètes de Baal faire un autel pour pouvoir faire allumer le feu. Hein? Alors, ils priaient, ils dansaient, il y avait du sang sur l'offrande. Ils ont vraiment tout fait et le feu n'a pas descendu du ciel. Élie, lui, a même mis de l'eau sur son autel et quand il a imploré, le feu est descendu du ciel. Et on a vraiment vu, le peuple a vu que le Dieu vivant était vraiment Dieu, pas Baal. Donc, le peuple avait une certaine repentance. Mais Jézabel et Akab, pas du tout. Hein. Jézabel a un grand cœur de pierre, il n'y avait rien. Même ça l'a amené une haine encore plus forte envers Élie, qui avait amené une... qui avait pu faire ramener un petit peu le peuple vers Dieu. Donc, Akab, dans toute sa méchanceté, était très avare, très jaloux. Donc, il s'est fait construire un deuxième palais. Je pense que je vais rester proche. Un deuxième palais avec beaucoup de richesses, ça ne le satisfaisait pas. Il a vu une vigne au loin, la vigne de Naboth, puis il était bien jaloux. Alors, il est allé voir Naboth, puis il lui a dit, « Je veux ta vigne, donne-moi ton prix, peu importe ce que je vais faire, peu importe ce que je peux, je vais te le donner, je veux ta vigne. » Mais Naboth, lui, il ne voulait pas. En fait, il ne pouvait pas, parce que dans la loi de Dieu, quand c'était une terre qui était du patrimoine familial, il ne pouvait pas la donner. Donc, soit Akab ignorait la loi, soit il s'en foutait, il ne s'en occupait pas. Fait qu'Akab, Naboth, excusez, a dit non. Puis là, Akab est revenu en grande dépression dans son château, dans son royaume. Puis il s'est dit qu'il était étalé sur le lit, qu'il était affable, qu'il était vraiment découragé. Il ne mangeait plus, hein, une grande, grande dépression. Puis là, il dit à Jézabel, il ne veut pas me donner ma vigne, j'ai donné plein d'argent, il ne veut pas. Fait que Jézabel, un peu déçue et irritée par son mari, lui dit, je vais m'en occuper, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Donc, elle a usurpé l'identité du roi Akab. Elle a fait signer des traités avec sa signature, avec son sceau. Puis, par autorité du roi, elle a mis certains règlements qui ont fait que Naboth, vu qu'il ne les suivait pas, a été puni. Il a même été lapidé. Donc, Naboth est décédé, finalement. Donc, Akab pouvait maintenant profiter de la vigne de Naboth. Hein? Donc, Élie, cependant, est venu transmettre le message à Akab qu'il avait tué un innocent, qui avait volé son bien, puis que Dieu allait lui donner une conséquence. Effectivement, le jour même, Akab s'est fait tuer au champ de bataille. Jézabel, elle a perduré quelques années comme reine, mais elle est quand même morte là, en tombant d'une tour, et on a retrouvé une partie de ses ossements. Donc ça, c'est un peu un résumé de la vie de Jézabel. Donc, Jézabel n'est pas une femme qu'on pourrait dire qui représente la soumission. Hein? Je pense que c'est assez clair. En fait, elle est remplie de méchanceté, de cruauté. Elle a un objectif, c'est de détruire la croyance de son peuple envers Dieu. Elle va même jusqu'à tuer les gens quand ils ne se soumettent pas. Mais pourtant, Jézabel, c'est une femme qui a de nombreuses qualités. Hein? Puis c'est juste qu'elle ne les utilise pas comme il faut. Donc, la soumission, ce n'est pas une question d'être gentil ou bon, c'est d'utiliser notre capacité puis qui on est de la bonne façon. Jézabel avait un esprit clair, vif. On voit que rapidement, elle a des idées, des façons de faire. Hein? Elle est capable de mettre son plan en exécution, mais elle l'utilise pour des mauvais desseins. Elle a beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Le roi, ses vaches, ne veut rien faire. Elle, elle décide d'un plan, elle bâtit certaines choses, mais c'est pour faire le mal, puis c'est dans son propre intérêt, au lieu d'être envers l'intérêt de, vraiment de son mari et de son peuple. Elle a de grandes capacités de leadership, mais elle usurpe le rôle de son mari. Hein? Elle lui vole son trône, elle lui vole ses capacités, puis elle fait à sa place. Puis ça en va là, même à détruire tout le peuple pour ses propres intérêts, comme j'ai dit tantôt. Elle a une belle assurance, mais elle l'utilise pour éloigner le peuple de Dieu. Puis être dans la lignée royale, il fallait l'utiliser comme un privilège. Puis elle a promouvu ses propres intérêts, puis ses propres... croyance pour manipuler ces sujets. Fait que c'était pas être roi, on est supposé avoir une responsabilité envers ceux avec qui on est, puis elle l'a pas fait. Donc, Jézabel, on voit que elle aurait pu être amenée à Acab vers le droit chemin. Là, on pourrait dire, oui, mais elle est née dans une famille païenne, Baal était là. Mais vous allez voir dans l'autre histoire que peu importe d'où on vient, le bagage qu'on transporte, c'est vraiment une question de cœur. Donc, il y a vraiment, il y a personne qui, peu importe ses origines, sa personnalité, est automatiquement obligé de rentrer dans le mur puis continuer dans son péché. Dieu peut sauver n'importe qui de n'importe quelle façon. Fait que même si on voit que Jézabel aurait pu être quelqu'un là, que jamais elle serait venue au Seigneur, il n'y a rien qui est aussi fort que Dieu. Puis Dieu a donné des conséquences parce qu'elle ne s'est vraiment pas soumise autant à son mari qu'à la volonté de Dieu dans sa vie. Le deuxième exemple, parce que je savais, là, je suis sur mon air d'aller, oui. Vous me suivez. Le deuxième exemple, je ne l'avais pas dans mon plan de cours pour ceux qui sont bien à l'affût. J'appelle ma sœur cette semaine, je dis « Ah, oh, je ne sais pas qu'ils mettent en soumission, je trouve ça difficile, puis là on discute. » Puis là, on voulait mettre une femme contemporaine, je trouvais ça difficile parce que tu sais, il n'y a pas de femme qui a écrit « Je suis soumise », c'est comme livre. Hein? Y a pas... Je ne voulais pas étiqueter non plus une femme contemporaine. Puis là, en brainstormant ensemble, on a réalisé que Ruth était vraiment une personne qui avait montré une fidélité puis une soumission d'une belle façon. Encore une fois, il y a une petite histoire illustrée. Dans le fond, on est dans le temps, il y a une autre famine encore qui sévit. Et Élimélec, avec sa femme Noémie et ses deux fils, quittent le pays d'Israël pour aller à Moab pour pouvoir mieux survivre. Peut-être que ce n'était pas une bonne décision. Hein? Tu sais, il aurait pu compter sur Dieu, rester dans le pays où il était. C'est pas dit là, que c'est nécessairement un problème, mais c'était pas nécessairement ça qui était prévu d'aller dans un peuple et Moab n'adorait pas Dieu comme peuple. Donc, ils ont quitté pour aller vers Moab. Ils ont élevé leur fils. Leur fils a marié deux femmes moabites. Hein, il n'y avait pas d'autres Israélites. Donc, ils ont marié deux femmes moabites, deux étrangères qui n'avaient pas, qui n'étaient pas les lois de Dieu qui étaient prévues faire. Et, comme on connaît, le mari, les deux fils sont décédés de maladie. Là, j'ai oublié de vous dire avant de commencer que cette histoire-là est particulière aussi parce que dans les 66 livres de la Bible, il y a seulement deux livres qui portent le nom de femmes, Esther et Ruth. Hein? Puis Ruth, là, encore une fois, moi j'aime beaucoup ça, là, c'est très contradictoire. Ruth n'est pas une femme juive, c'est une femme. Hein? C'est pas naturel là, que son nom soit un livre, étant donné qu'on est dans l'Ancien Testament. C'est plus dans le Nouveau Testament là, qu'on voit que c'est... Il y a des païens qui croient, tu sais, qu'il y a d'autres gens qui embarquent. Mais dans l'Ancien Testament, d'avoir le nom d'une femme, c'est très particulier. Puis vous allez voir, Ruth, pas qu'elle mérite son livre, mais elle a montré au travers de son témoignage là, qu'elle a vraiment fait des bonnes décisions. Donc, Noémie, Ruth et Oprah, c'est la femme de l'autre fils, quittent pour retourner en Israël. Noémie a dit « J'ai plus rien à faire ici, mon mari, mes fils sont morts, je retourne. » Oui, Camille?
Juste peut-être un petit focus sur oui. Le fait que pourquoi Ruth est là, c'est parce qu'elle est un ancêtre du Christ.
Oui, c'est ça, on va en parler juste, après. Okay, oui, parfait.
Juste
oui,
ça,
on reviendra.
À cause de sa soumission, c'est vraiment parce qu'elle est ancêtre.
Oui, bien c'est ça, on va en reparler après, parfait. Puis, donc, Noémie, la maman, décide de retourner dans son pays. Fait que les filles décident de partir avec elle. Ils sont toutes les trois veuves. Mais là, Noémie, là, au début du chemin, elle dit ça n'a pas de bon sens, vous pouvez pas rester avec moi. Je suis pas capable de retomber enceinte. Puis même si je serais capable, le temps de l'élever, puis que ça redevienne votre mari, ça n'a pas de bon sens, on gâche votre. Tu sais, ils pouvaient se remarier, puis voir ça. Fait qu'elle dit, tu sais, je suis en train de gâcher votre. Alors, on voit vraiment que Oprah, elle décide de retourner, mais Ruth, on va le voir plus tard, là, décide vraiment là, de déclarer une belle fidélité envers sa belle-mère et décide de rester avec elle. Donc, c'est ça. Donc, elle décide de retourner là, dans le pays d'Israël. Par contre, Dieu avait prévu un plan pour les femmes qui étaient veuves, les orphelins. Dieu avait mis une sorte de loi où que les gens pouvaient aller glaner dans le champ des autres, pas cueillir le blé, mais ce qui était tombé par terre, les veuves pouvaient le ramasser pour pouvoir subsister et tout ça. Donc, Ruth fait ça pour pouvoir survenir à leurs besoins. Et là, les serviteurs la remarquent, en parlent au propriétaire Boaz. Puis, Boaz permet là, qu'elle puisse gagner même plus, que les serviteurs laissent tomber des bons brins de blé pour qu'elle puisse en avoir accès plus. On s'entend, là, c'est très raccourci, ça se passe sur plusieurs temps. Mais Noémie découvre que Ruth a une belle abondance, puis il se rend compte que c'est le champ de Boaz. Boaz, qui est un proche parent de Noémie. Donc, Noémie discute avec sa fille, puis lui dit, Boaz est proche parent, ça serait bien que tu ailles lui montrer là, une sorte d'intérêt. Là, hein? C'est un petit bout romantique, là, mais elle laisse entendre là, qu'elle est intéressée, en tout bien tout honneur. Mais Boaz n'est pas le plus proche parent, il y en a un autre. Donc, ils vont aller faire une entente avec l'autre plus proche parent qui va délaisser son droit de la marier. Et Boaz va devenir le mari de Ruth et ils vont avoir un enfant. Et comme Camille l'a si bien souligné, Dieu a accordé un grand privilège à Ruth d'être dans la lignée de Jésus. Hein, on se souvient, les généalogies, c'est les hommes qui y ont droit, parce que ça passe d'homme en homme, hein, comme le nom de famille, nous, au Québec, on passe ça, c'est la même chose pour eux. Mais il est fait mention de Ruth dans la lignée de Jésus. Donc, Jésus a vraiment béni la fidélité d'une femme dans l'Ancien Testament non-juif. Fait qu'il y a vraiment un petit paradoxe là, que Dieu est capable de nous montrer dans ces choix-là. Ruth, elle agit par amour pour sa belle-mère, hein, puis par amour pour le Dieu de Noémie. Peut-être que ce n'était pas son Dieu à ce moment-là, là, c'est pas clair, on ne le sait pas. Mais clairement, là, le grand verset qui est très utilisé, qu'on connaît bien, qui est une belle preuve de fidélité, c'est quand Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Hein, c'en est presque des vœux de mariage, hein, tellement il y a une profondeur dans sa détermination à être fidèle à Noémie. On ne connaît pas le contexte dans lequel il était. Hein. On ne sait pas, eux, ils ont vécu plusieurs années ensemble. Est-ce que Noémie et Élimélec parlaient de Dieu dans la maisonnée? Est-ce que Ruth avait vraiment une compréhension de qui était Dieu, de ce qu'il avait fait, de sa grandeur? Peu importe ce qui est arrivé, elle a décidé d'embraser ça et de devenir « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu », de faire une confession où qu'elle voulait vraiment s'affilier. Peut-être qu'au début, c'était par amour pour Noémie, mais par la suite, elle a montré une belle soumission et un bel exemple qu'elle persévérait dans ça. Et combien moi, adolescente, j'allais à l'église, tu sais, j'avais une belle foi, j'étais convertie, mais j'allais à une église quand j'avais plus d'amis à cette église-là, un événement. Combien des fois les gens autour de nous viennent influencer certainement notre choix de qu'est-ce qu'on fait, où on va. C'est pas nécessairement mauvais, mais après, Ruth a vraiment fait se l'est approprié pour elle-même, même si au début, c'était pour l'amour du Dieu de Naomi. Ruth a suivi les conseils des coutumes de l'époque. Elle aurait pu être plus effrontée, mais elle a décidé de suivre, là, d'aller glaner du blé. Pas beaucoup de blé au début, hein, c'était vraiment que les restes qui restaient par terre. Elle a vraiment suivi les coutumes de l'époque, puis elle connaissait la parole de Dieu que Noémie avait été capable de lui promulguer, puis elle lui croyait parce qu'elle posait des actes qui montraient qu'elle avait ça. Donc, son affection, son dévouement et son respect lui ont permis de suivre les conseils de Noémie. Fait qu'on voit vraiment que Ruth s'est soumise au désir de Naomi, qu'elle s'est soumise finalement à Dieu et aux coutumes de l'époque. Puis Dieu a béni Ruth en ayant un deuxième mariage, en lui donnant un enfant, puis en étant dans la lignée de Jésus. Fait que vraiment, moi, ce que je trouve, c'est que Ruth avait peut-être le même début de parcours que Jézabel, hein, dans un peuple païen, avec des parents païens. Mais elle a vraiment fait un autre choix selon, oui, les gens avec qui elle était, oui, comment Dieu l'a dirigée. Mais c'est vraiment par ses choix, puis sa capacité à se soumettre à la situation qu'elle a été bénie. Puis quand on lit tout l'ensemble de Ruth, moi, en tout cas, je vois pas une femme faible. Moi, je vois une femme qui a une bonne personnalité, qui était capable de confronter sa belle-mère, lui dire qu'elle restait, qu'elle avait vraiment une soumission, mais qui l'emmenait loin. Puis, elle a pas, elle s'est pas rebellée contre l'époque où quand Boaz devait aller demander à l'autre homme, hey, ça pouvait impliquer qu'elle se marie avec un autre homme. Que Boaz... Il y avait vraiment toute une implication législative là-dedans. Puis, il y a vraiment une sérénité où il y a eu une confiance qui a été faite. Par contre, le bémol qu'on doit dire, hein, c'est qu'il faut, faut connaître notre parole pour suivre les conseils de quelqu'un qui nous le dit, pour être à l'affût que les conseils sont bons. Hein. Donc, Noémie, Ruth n'a pas nécessairement fait ça à l'aveugle. J'imagine qu'elle avait quand même un discernement et était capable de juger que les conseils de Noémie étaient bons. Donc, on ne suit pas les conseils nécessairement de tous à tort et à travers, mais il y avait une belle confiance qui était installée puis on sentait là, que Noémie et Ruth travaillaient en convivialité. Donc, on voit que Jésus, la petite conclusion, là, c'est que Jésus a payé pour nos péchés en mourant sur la croix. Acceptons le paiement pour nous-mêmes, puis comptons sur lui pour les autres décisions que nous avons à prendre. J'aime beaucoup l'illustration qui m'était donnée quand j'étais petite fille. Hein? C'est comme si on dit, je donne ma maison à Jésus, mais je garde mon sous-sol puis ma salle de bain. Hein? On a l'impression qu'on retient certaines choses dans nos vies. Si on donne notre vie à Jésus, comme on a vu la semaine passée, si on vit notre évangile, quotidiennement, il faut avoir le désir, parce que ça part de notre volonté, hein, au lieu de se braquer. Si on décide d'accepter Jésus dans notre cœur, d'accepter que c'est lui qui peut tout, que tout a été accompli par lui, mais il faut aussi compter sur lui que les décisions et les événements que la vie que Jésus nous donne dans notre vie, il va être là pour nous, puis il va nous soutenir. Hein, il est pas déjà que je trouve que c'est un très grand acte de tout pardonner nos péchés puis de nous amener. Des fois, on a de la misère, notre confiance dans le quotidien, hein, dans la maladie, les difficultés, l'impatience. Ça, puis on voit que des fois, on a l'impression qu'on vit le sacrifice de Jésus. C'est beau, j'ai compris, mais pour le reste, on a de la misère à la remettre à Dieu. Tandis que des fois, ça devrait être l'inverse. Hein. Il me semble que c'est tellement gros croire que Jésus nous a sauvés puis a fait la mort, puis il me semble nous donner une... certaines de la nourriture, de la santé, puis ça, on a de la misère à y croire. Fait qu'il faut vraiment compter sur lui. Puis si on est capable, comme la semaine passée, on dit, de vraiment se souvenir pourquoi on est venu à Christ, qu'est-ce qui, à ce moment-là, a changé, puis qu'est-ce qu'on a compris, bien, c'est de quotidiennement renouveler ça pour être capable que dans le reste de notre vie quotidienne, on ait une attitude de soumission envers lui, non parce qu'on est faible, mais parce qu'on est ses enfants, puis on veut qu'il prenne soin de nous. De nous. Voilà. Je fais ça trop court, hein? C'est la fin. Et je vais prendre les partages. Je veux juste voir l'heure. Ah, exactement 36 minutes comme la semaine passée. Fait qu'on est bon. Fait que je vais prendre les partages par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient plus lu les histoires ou le livre puis qui voulaient rajouter des choses ou. Non, c'est difficile, hein? Bien, moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'on n'aborde pas le rôle homme-femme. Je pense que cette attitude de cœur-là qu'on a, qu'on doit développer, est vraiment une bonne base sur laquelle on peut solidifier. Moi, je vous encourage, c'est pour ceux qui... j'ai fait un envoi courriel pour les histoires. Je vous encourage, si vous voulez, à relire les histoires à la lumière un peu de ce qu'on s'est dit, puis à continuer à voir de votre côté s'il y a des choses qui viennent vous toucher, vous ébranler, puis voir aussi que on est encore dans un peu l'abstrait, hein? C'est la première aussi, celle-là aussi, c'est pas des choses concrètes qu'on parle. Hein? Dans les cours qui vont venir, on va en parler plus. Là, la générosité par nos offrandes, les bonnes œuvres, notre évangélisation. On va être un peu plus concret dans nos actions. Mais vraiment, le début du livre est pour mettre nos assises, parce que ça part pas de nos actes, notre conversion, ça part de notre fond. Hein? Ça part de ce qu'on croit, de nos convictions puis de nos motivations. Fait qu'on est encore un peu dans l'abstrait où qu'on travaille sur notre façon de penser pour qu'on puisse, après ça, que nos gestes ne soient pas dénués de sens ou ne soient pas juste en vain, mais vraiment avec une belle conviction. Fait que s'il n'y a pas de questions, bien, je vais essayer de faire ça plus long la prochaine fois. Moi, je trouvais que j'avais beaucoup de stuff. Je trouvais que c'était long à tout mettre, mais je parle rapidement. Là. Fait que j'ai les textes pour le premier cours, puis il y en a qui n'ont pas reçu mes courriels, donc j'ai vraiment ajouté tous les courriels qui m'ont été donnés. Donc peut-être qu'on pourra vérifier aussi les courriels que j'avais pour être sûr que tous les envois ont été faits. On peut peut-être terminer par un mot de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prier pour la matinée? Oui, merci, Joseph.
Seigneur Dieu, j'aimerais te remercier d'être dans mon vie parce que c'est vraiment plus que toute la différence. Je te remercie pour Mireille qui prend son temps pour tout préparer. Je te remercie d'avoir mis ça sur son cœur. Puis je te prie de la bénir. Je te prie, Seigneur, de nous bénir chacun de nous ici ce matin. Qu'on puisse réaliser la grandeur de ton amour en vie. Malgré tout ce qu'on peut vivre, Seigneur, tu es là. Et je te remercie vraiment pour tout. Dans le nom de ton Fils. Amen.
Amen. Merci.